بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Donc on continue en fait une série de cours qu'on avait commencé à Chalon le week-end dernier, qui s'appelle, en français on a intitulé la série La Sunna et l'histoire du Hadith, et c'est inspiré du livre, en fait le livre que j'ai sous les yeux, qui s'appelle Tadwin al-Sunna al-Nabawiyya, c'est-à-dire l'écriture de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est un livre d'un professeur de l'université de Médine qui s'appelle Mohamed Matar al-Zahrani. Donc pourquoi j'ai choisi ce thème là avant de rentrer dans le vif du sujet, et comme ça en attendant aussi que les frères ils arrivent de la mosquée, quelqu'un il pourrait dire, c'est-à-dire c'est vrai que c'est pas un sujet de base, c'est-à-dire normalement on devrait étudier par exemple al-usul al-thalatha, les 40 hadiths, ça c'est un sujet un petit peu plus avancé. Mais c'est un sujet qui est nécessaire, c'est pour ça que j'ai décidé de le faire, dans le sens où on espère tous être des gens de la sunna et des gens du hadith, et donc il faut connaître ce que c'est que la sunna et ce que c'est que le hadith, et l'histoire de la sunna et l'histoire du hadith, et aussi parce qu'on vit dans un pays où on est confronté à des gens, soit parmi les gens de l'innovation, soit parmi les koufars, qui dénigrent la sunna, et qui mettent en doute les musulmans vis-à-vis de la sunna, c'est-à-dire, quand je dis la sunna ici, dans le sens les hadiths. Donc ils mettent en doute les musulmans vis-à-vis du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on est arrivé, on avait expliqué beaucoup de chapitres sur, on avait défini ce que c'était que la sunna, l'importance qu'ont donné les salafs à la sunna, et là on est arrivé à un des moyens par lesquels ils ont donné importance à la sunna, qui est al-rihla, c'est-à-dire le voyage. Donc Cheikh ici il dit thalithan al-rihlatu fi talab al-hadith, le fait de voyager pour chercher les hadiths. سبق القول عند الكلام عن مكانة السنة في الإسلام بأن السنة وحي من الله وأنها المبينة لما أشكل من كتاب الله. Il dit on a déjà expliqué la position de la sunna dans l'islam, et que la sunna est une révélation d'Allah, et qu'elle explique ce qui n'est pas expliqué dans le livre d'Allah. فلما كانت للسنة هذه المكانة أولاها السلف غاية اهتمامهم. Donc comme elle a cette position, les anciens de cette communauté, as-salaf, lui ont donné une grande importance. وَبَذَلُوا مِنْ أَجْلِ جَمْعِ الْحَدِيثِ وَأَسَانِيدِهِ كُلَّمَا فِي وُسْعِهِمْ. Et ils ont produit un effort pour regrouper les hadiths et regrouper les chaînes de hadiths, un grand effort, c'est-à-dire ils ont fait dans ce chemin tout ce qui était possible. حَتَّى رَحِلُوا الْمَسَافَاتِ الْبَعِيدَةِ عَلَى بُعْدِ الشُّقَّةِ وَعِظَمِ الْمَشَقَّةِ طَلَبًا لِلْحَدِيثِ وَبَحْثًا عَنْ أَسَانِيدِهِ وَذَلِكَ امْتِثَالًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Et donc ils ont notamment voyagé de grandes distances, et ils ont souffert et ils ont enduré pour chercher les hadiths et pour chercher les chaînes de transmission du hadith, et ce en suivant la parole d'Allah Azza wa Jal. Pourquoi un groupe de chaque groupe d'entre eux ne partirait-il pas pour apprendre la religion et pour affirmer leur peuple, pour avertir leur peuple quand ils reviennent à eux, afin qu'ils craignent. C'est-à-dire, c'est un verset où Allah il parle du fait que chaque que parmi les musulmans il y a un groupe qui part étudier. Wa qawlihi sallallahu alayhi wa sallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhala Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah rawahu Muslim. Et suivant aussi la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit: celui qui emprunte un chemin dans lequel il cherche une science, Allah lui facilite par ce chemin un chemin au paradis, dans Sahih Muslim. وقد كانت الرحلة في طلب الحديث من لوازم طريقة المحدثين ومنهجهم في التحصيل العلمي. قال الحافظ ابن الصلاح: وإذا فرغ من سماع العوالي والمهمات التي ببلده فليرحل إلى غيره. Et donc ça faisait partie de la voie et des choses qu'on ne pouvait pas contourner pour les muhaddithines, pour acquérir la science. Et Al-Hafidh ibn Salah, donc un savant du 7e siècle, a dit, lorsque la personne a entendu les hadiths qui sont dans son environ, l'awali, c'est-à-dire les hadiths qui sont récités dans son pays, qui sont transmis dans son pays, alors qu'il voyage dans un autre pays. C'est-à-dire que le talib, il devait à l'époque, donc il n'y avait pas à l'époque les hadiths, ils n'étaient pas regroupés comme maintenant. Dans le sens où maintenant, si tu veux un hadith, tu le prends dans ton étagère. Mais à l'époque, il fallait les chercher dans la bouche des hommes. Donc une fois qu'il a entendu les hadiths qui se récitent dans sa région, il doit voyager dans les autres régions pour regrouper les hadiths. وأن يحيى بن معين رحمه الله أنه قال أربعة لا تؤنس منهم رشدا حارس الدرب ومنادي القاضي وابن المحدث ورجل يكتب في بلده ولا يرحل في طلب الحديث. يحيى بن معين رحمه الله disait, un des imams du hadith et de Al-Jarh al-Ta'dil, il disait, quatre personnes ne t'attend pas à ce qu'elles soient guidées. Et parmi les quatre, il a cité celui qui écrit le hadith dans son pays et qui après ne voyage pas pour rechercher les hadiths. وعن أحمد بن حنبل أنه قيل له رحمه الله أيرحل الرجل في طلب العلو فقال بلى والله شديدا لقد كان علقمة والأسود يبلغهما الحديث عن عمر رضي الله عنه فلا يقنعهما حتى يخرج إلى عمر فيسمعانه منه. Ici, donc ça c'est ce qu'a rapporté Al-Khatib al-Baghdadi, un savant du 5e siècle, dans un livre qu'il a appelé Ar-Rihla, justement, c'est-à-dire le voyage pour la science, une parole de l'imam Ahmed, à qui on a dit, rahimahullah, est-ce que l'homme doit voyager pour chercher Al-Ulu? Al-Ulu, quand on traduit comme ça en arabe, c'est la hauteur ou l'élévation. Lui, de quoi il parle ici? Il parle de la petitesse de la chaîne de transmission. On va expliquer après avoir lu la parole. Et l'imam Ahmed, il a dit, bah là, wallah, c'est-à-dire, bien sûr, il jure par Allah, il dit, shadidan. Il faut absolument et de façon intense voyager dans ce chemin. Et après, l'imam Ahmed il dit Al-Qama et Al-Aswad, donc de parmi les tabi'in d'Irak, il leur parvenait un hadith de Omar, c'est-à-dire une parole de Omar, ou un hadith que transmet Omar, parce que dans les paroles des salafs, des fois le mot hadith il s'applique à la parole des sahaba, et ça ne leur suffisait pas jusqu'à ce qu'ils sortent vers Omar pour l'entendre de sa bouche. C'est ça le ulou. C'est-à-dire que, pour l'exemple en question, Al-Qama et Al-Aswad, rahimahumallah, donc parmi les savants des tabi'in, ils sont en Irak. Et on leur transmet un hadith de Omar. Donc eux, ils n'ont pas entendu Omar. Entre eux et Omar, il y a des transmetteurs. Donc il peut y avoir un, deux, trois transmetteurs, une chaîne de transmission jusqu'à Omar. Eh bien, le ulou, c'est de couper cette chaîne en allant directement à la source et d'entendre Omar. Et donc ils faisaient ça. Ils voyageaient pour avoir la chaîne de transmission la plus courte possible dans leur hadith. Donc là, en l'occurrence, c'est-à-dire qu'ils voyageaient d'Irak à Médine. Donc ça fait, je ne sais pas exactement, mais ça doit faire 1500 km ou plus, pour entendre directement de Omar, pour qu'il n'y ait plus de chaîne de transmission entre eux et Omar. C'est ça qu'on appelle l'ulou. Wa an Ibrahim ibn Adham, radiallahu anhu, qala inna Allah ta'ala yadfa'u al-bala'a an hadhi al-umma bi rihlati ashab al-hadith. Donc aussi, toujours Al-Khatib, il ramène, Al-Khatib al-Baghdadi, rahimahullah, il ramène une parole de Ibrahim ibn Adham, rahimahullah, qui dit « Allah repousse les épreuves de cette communauté par la cause du voyage des gens du hadith. » C'est-à-dire qu'Allah, il épargne à cette communauté beaucoup d'épreuves et beaucoup de malheurs, parce que chez eux, il y a les gens du hadith qui voyagent pour le hadith. « Wa rawa al-Khatib bi isnadihi ila Abdillah ibn Ahmad ibn Hanbal, qala sa'altu abi amman talab al-ilm. » ترى له أن يلزم رجلا عنده علم فيكتب عنه أو ترى أن يرحل إلى المواضع التي فيها العلم فيسمع منهم قال يرحل ويكتب عن الكوفيين والبصريين وأهل المدينة ومكة يشام الناس يسمع منهم. Ici cette parole toujours rapportée dans Al-Rihla selon Abdullah ibn Ahmed, donc le fils de l'imam Ahmed rahimahumallah, il dit: j'ai questionné mon père à propos de celui qui recherche la science. Penses-tu qu'il doit s'accrocher à un homme qui a de la science et écrire la science de lui? Ou alors tu vois, c'est-à-dire tu penses, qu'il doit voyager dans les endroits où il y a de la science pour entendre les gens? Et il a dit plutôt il voyage et il écrit des gens de Koufa, donc en Irak, des gens de Basra en Irak, des gens de Médine, des gens de Mekka, et il côtoie les gens et il entend d'eux. C'est-à-dire il doit se mélanger aux gens du hadith et entendre d'eux et profiter d'eux. Ensuite, il dit Tarikh ou Nash'ati rihlati fi talab al-'ilm. Donc le Tarikh, c'est-à-dire le quand est-ce qu'a commencé ou comment a commencé le fait de voyager dans la recherche de la science. Al-aslu fi dhalika rihlatu nabiyillahi wa kalimihi Musa alayhi salatu wa salam ila al-Khidr wa qad qassaha Allahu alayna fi surati al-Kahf. Il dit la base dans ce sujet, dans le fait de voyager dans la science, c'est l'histoire de Moussa alayhi salam. Donc Allah nous a relaté dans surat al-Kahf quand il a voyagé vers Al-Khidr. Et l'histoire elle est détaillée, donc pour celui qui veut, il retourne à Sahih al-Bukhari. Donc même en français, il y a la traduction. Comme quoi Moussa, vous connaissez l'histoire, il a dit à son peuple pendant un discours, un homme il lui a dit, est-ce que tu vois que quelqu'un il est plus savant que toi sur terre? Il a dit non. Et Allah l'a informé qu'il y avait quelqu'un de plus savant que lui sur terre. Et Moussa, à qui Allah a parlé, et qui est un messager d'Allah, quand il a entendu que quelqu'un était plus savant que lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a voyagé. Et l'histoire, vous la connaissez dans Surat Al-Kahf, quand il a rencontré un autre prophète d'Allah qui est Al-Khidr. Alayhi wa salatu wa salam. وبدأت الرحلة في الإسلام برحلة تلك الوفود من القبائل العربية التي كانت تفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنحاء الجزيرة العربية تبايعه على الإسلام وتتعلم منه ما جاء به من الوحي كتابا وسنة. Et aussi الرحلة, le voyage dans la science, a commencé dans l'islam avec les tribus arabes qui venaient apprendre auprès du prophète صلى الله عليه وسلم. Donc elles venaient de toute la péninsule arabique pour lui prêter serment et se convertir à l'islam, et pour apprendre de lui la révélation, que ce soit le Coran, qui est la parole d'Allah, ou la Sunna. Donc les deux, c'est dans la révélation. ثم اهتم بها الصحابة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما تفرق الصحابة في الأمصار بعد الفتوحات فرحل جابر بن عبد الله إلى عبد الله بن أنيس في الشام واستغرق شهرا ليسمع منه حديثا واحدا لم يبقى أحد يحفظه غير بن أنيس. Et les compagnons, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ont donné à ce phénomène, entre guillemets, ou cet acte, une grande importance, à tel point que Jabir ibn Abdillah, radiallahu anhu, il a voyagé vers Abdullah ibn Unais, au Shem, donc Shem, la région de la Syrie, de la Jordanie, du Liban. Il a voyagé un voyage d'un mois pour entendre de lui un hadith. Parce qu'il savait que le seul qui connaissait ce hadith, c'était, à part lui, Abdullah ibn Unais. Et donc il a voyagé pour entendre de lui ce hadith. Donc là, un voyage d'un mois. C'était même pas pour apprendre beaucoup de choses, pour s'asseoir auprès d'un shir, c'était pour avoir un seul hadith. Et on va voir des exemples encore pires que ça par la suite. Il dit, et ça s'est passé quand les compagnons ils se sont dispersés dans les pays, après Al-Futuhat, c'est-à-dire après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand l'islam s'est répandu, les compagnons aussi se sont répandus. Et donc il fallait, celui qui veut le hadith, qu'il soit un compagnon ou qu'il soit un tabi'i, eh bien, il doit voyager pour rencontrer les compagnons qui retiennent les hadiths. Wa rahila Abu Ayyub al-Ansari ila 'Uqbah ibn 'Amir bi Misr, falamma laqiyahu qala: "Hadithna ma sami'tahu min Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fi sitri al-muslimi, lam yabqa ahadun sami'ahu ghayri wa ghayrik." فلما حدثه ركب أبو أيوب راحلته وانصرف عائدا إلى المدينة ولم يحل رحله. Il dit Abu Ayyub al-Ansari aussi. Donc Abu Ayyub, vous connaissez son histoire, c'est celui chez qui est arrivé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou celui qui a hébergé le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il a émigré à Médine. Quand le prophète il a laissé sa chamelle choisir chez qui il allait dormir, la chamelle elle s'est arrêtée devant chez Abu Ayyub al-Ansari. Donc Abu Ayyub radiallahu anhu, il a voyagé, et ce après la mort du prophète, jusqu'en Égypte, donc de Médine en Égypte, vers Uqba ibn Amir, un autre compagnon, et lorsqu'il l'a rencontré, il lui a dit, dis-moi le hadith que tu as entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam quant au fait de cacher le musulman, car il n'y a plus personne qui le connaît si ce n'est toi et moi. Donc là, c'était même pas pour l'apprendre, c'était juste pour le réviser et pour s'assurer qu'il le mémorisait bien. Et lorsque Uqba, il lui a récité le hadith, donc il n'a pas dit je vais aller voyager, je vais faire la croisière du Nil ou la visite des pyramides. Il a pris son chameau et il est parti aussitôt. Il n'est pas resté en Égypte. C'est-à-dire, une fois que son but il était accompli, qu'il a entendu son hadith, il est reparti aussitôt jusqu'à Médine. Donc imaginez-vous la distance pour l'époque. Sans avion, sans voiture, etc. وقد استمرت الرحلة في جيل التابعين حيث تفرق الصحابة في الأمصار بعد الفتوحات يحملون معهم ميراث النبوة وما كان يتيسر للرجل أن يحيط علما بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم دون الرحلة إلى الأمصار وملاحقة الصحابة المتفرجقين فيها. Et dans la génération des tabi'in qui ont suivi les sahaba, et comme les sahaba se sont dispersés après les conquêtes islamiques, eh ben les tabi'in ou at-tabi'un ont entretenu ce phénomène de voyager. Parce que les sahaba se sont dispersés après les conquêtes et chacun porte une part de l'héritage prophétique. Donc un homme, il ne pouvait pas avoir un point de vue global de la sunna et connaître toute la sunna ou une grande partie de la sunna, si ce n'est en voyageant dans les différents pays pour rencontrer les différents compagnons. Puisque, comme on sait, chaque compagnon n'a pas entendu tous les hadiths du prophète, mais chaque compagnon a entendu une partie. Donc celui qui veut le maximum de hadiths, eh ben, il doit voyager au maximum de compagnons. قال الإمام سعيد بن المسيب سيد التابعين إن كنت لأسير في طلب الحديث الواحد مسيرة الليالي والأيام. الإمام سعيد بن المسيب سيد التابعي parmi la génération des grands tabi'in, c'est-à-dire des anciens tabi'in. Et ils disent c'est Sayyid al-Tabi'in, c'est-à-dire ils disent les ulama c'est le plus savant parmi la génération des tabi'in. Il dit je voyageais pour avoir un hadith, c'est ça, il dit pour avoir un seul hadith, je voyageais des voyages qui font des nuits et des jours, des distances qui prennent des nuits et des jours, pour apprendre un seul hadith. وقال بسر بن عبد الله الحضرمي إن كنت لأركب إلى مصر من الأمصار في الحديث الواحد لأسمعه. Un autre salaf, بسر بن عبد الله الحضرمي, disait la même chose. Il disait je voyageais vers un pays quelconque pour entendre un seul hadith. وقال عامر الشعبي لم يكن أحد من أصحاب عبد الله بن مسعود أطلب للعلم من في أفق من الآفاق من مسروق. Al-Sha'bi, rahimahullah, disait il n'y a pas un parmi les compagnons de Abdullah ibn Mas'ud qui recherchait plus le hadith dans les horizons, c'est-à-dire en voyageant, que Masruq. وحدث الشعبي رجلا بحديث ثم قال له أعطيناكها بغير شيء قد كان يركب فيها دونها إلى المدينة. Et aussi on rapporte que Al-Sha'bi, rahimahullah, a raconté un hadith à un homme et il lui a dit je te l'ai donné pour rien, alors que pour moins que ça, c'est-à-dire peut-être il veut dire pour un hadith plus petit, on voyageait jusqu'à Médine pour l'entendre. Et moi je te l'ai donné comme ça directement. Et ça c'est une leçon pour nous aujourd'hui pareil. C'est-à-dire nous tout y est facilité, internet, les livres, etc. Alors qu'à l'époque il fallait voyager pour entendre la science, pour entendre ne serait-ce que les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وعن أبي العالي الرياحي قال كنا نسمع الرواية بالبصرة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نرضى حتى ركبنا إلى المدينة فسمعناها من أفواههم. أبو محمد الدارمي dans السنن rapporte que Abu al-Aliya, donc un des tabi'in, disait nous entendions quelque chose de rapporté des compagnons du prophète صلى الله عليه وسلم à al-Basra, donc en Irak. Al-Riwaya, c'est-à-dire ils entendaient le hadith qui venait des compagnons avec une chaîne de transmission. Il dit, mais ça ne nous satisfaisait pas jusqu'à ce que nous voyagions à Médine pour l'entendre de leur bouche. Et ils voyageaient effectivement. Et donc ils faisaient les centaines ou les milliers de kilomètres dans les régions désertiques, par la sécheresse, la chaleur, ou alors des fois c'est l'inverse dans la péninsule arabique. Des fois c'est aussi le froid, très sec et très intense. Et malgré tout ça, ils voyageaient pour entendre les hadiths directement de la bouche des sahaba. Ici il dit, Asbab al-Rihla. Donc quelles étaient les causes de ces voyages ? للرحلة في طلب العلم أسباب كثيرة من أهمها. Donc le fait de voyager pour apprendre la science a beaucoup de causes, c'est-à-dire a beaucoup de causes qui poussent à le faire, mais les plus importantes étaient à l'époque. أولا في جيل الصحابة كانت لسماع حديث لم يسمعه الصحابي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو للتثبت من حديث يحفظه الصحابي وليس في بلده من يحفظه فيشد الرحال إلى من يحفظه ولو كان على مسيرة شهر. Une des premières raisons, donc à l'époque des compagnons, c'était les voyages qu'ils faisaient, c'était pour, dans la science, c'était pour entendre un hadith qu'ils n'avaient pas entendu du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc ils entendaient qu'un tel l'a entendu, alors que lui ne connaît pas. Il entend qu'un tel compagnon a un hadith que lui ne connaît pas, donc il voyage. Ou alors c'était pour at-tathabbut, c'est-à-dire il connaît un hadith, mais il veut le réviser. Et donc il sait, il entend parler qu'un tel bonhomme connaît le hadith à tel pays, alors il voyage pour l'entendre, comme on a vu avec Jabir ibn Abdillah quand il a voulu apprendre le hadith d'Abdullah ibn Unais, et Abu Ayyub quand il a entendu de Uqba ibn Amir. Et même si c'était voyager une distance d'un mois, il le faisait, dans ce chemin. ثانياً أما في التعين فذلك بسبب تفرق الصحابة في الأمصار وكل منهم يحمل علما من ميراث النبوة فاحتيج إلى علمهم فرحل إليهم. Quant à la génération des tabi'in, de ceux qui ont suivi les sahaba, la cause était que, comme on l'a déjà dit, les compagnons étaient dispersés dans les pays. Et chacun y porte une part de l'héritage du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, pour avoir leur science et pour l'acquérir, on avait besoin de voyager dans les différents pays où ils étaient. ثالثا ظهرت أسباب أخرى فيما بعد هذين الجيلين من تلك الأسباب. Troisièmement, donc il y a d'autres causes qui sont apparues après ces deux générations qui sont. ظهور الوضع في الحديث حيث كثر أصحاب الأهواء الذين انتحلوا أحاديث تؤيد أهواءهم ونسبوها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فنشط العلماء في الرحلة للتحقق من تلك الأحاديث ومعرفة مصادرها ومخارجها. Une des causes, après ces deux générations qui est apparue, c'est Al-Wada', c'est-à-dire l'invention des hadiths. Donc quand les gens des passions se sont multipliés, ils ont commencé à inventer des hadiths sur le dos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des hadiths qui appuient leur doctrine et qui appuient leur passion. Et les ulama, donc, ils ont répondu en voyageant pour vérifier les chaînes de transmission et vérifier d'où venaient les hadiths. طلب الإسناد العالي فيرحل لأجله كما قال الإمام أحمد طلب الإسناد العالي سنة عمن سلف. Une autre cause après la génération, les deux premières générations, c'est comme on a dit العلو, c'est-à-dire le fait d'avoir une chaîne de transmission la plus courte possible. Mais donc ils voyageaient pour cela. Donc comme il a dit l'Imam Ahmed rahimahullah, le fait de chercher une chaîne de transmission إسناد عالي, c'est-à-dire haute, en fait ce qu'il veut dire par là c'est courte, est une sunna de ceux qui nous ont précédés. Ça c'est Ibn Salah rahimahullah qui l'a ramené dans son livre Al-Muqaddimah, c'est-à-dire Ulum al-Hadith. Qu'est-ce qu'il veut dire par là en fait, pour comprendre une dernière fois? Par exemple, un hadith, il entend le hadith à Médine. Donc il entend d'un shir de Médine, qu'il a entendu d'un autre shir de Médine, qu'il a entendu d'un shir de l'Irak. Donc lui, qu'est-ce qu'il va faire? Et ce shir de l'Irak, il est toujours vivant. Donc entre lui et le shir de l'Irak, il y a deux bonhommes. Il va voyager en Irak. Comme ça, il y a déjà deux bonhommes qui vont sauter de la chaîne de transmission. Et donc la chaîne, elle sera plus courte et donc plus fiable. C'est ça le ulou. قال الخطيب البغدادي المقصود في الرحلة في الحديث أمران أحدهما تحصيل علو الإسناد وقدم السماع والثاني لقاء الحفاظ والمذاكرة لهم والاستفادة عنهم فإذا كان الأمران موجودين في بلد الطالب ومعدومين في غيره فلا فائدة في الرحلة والاقتصار على ما في البلد أولى. الخطيب البغدادي dit ce qui est voulu, le but du voyage pour le hadith, الرحلة في الحديث, sont deux choses. Le fait d'avoir une chaîne de transmission courte, comme on l'a expliqué, et la deuxième, c'est le fait de rencontrer Al-Huffaz, ceux qui mémorisent le hadith, et de réviser avec eux et de profiter d'eux. C'est-à-dire un des bénéfices aussi qui est tiré du voyage dans le hadith, c'est pas seulement d'entendre le hadith du shir, mais c'est de fréquenter les autres étudiants. Et ces autres étudiants ou ces autres shuyur, ils vont leur profiter, non seulement dans les hadiths, mais aussi dans l'ilm al-rijal. C'est-à-dire lui, il va par exemple rencontrer des étudiants qui sont de telle contrée et qui ont connu tel ou tel shir. Et peut-être ils vont pouvoir les informer sur tel ou tel muhaddith, selon ce que lui ne connaissait pas d'eux, qui va influencer son jugement sur ce muhaddith, dans Al-Jahl ou Al-Ta'dil. Est-ce qu'il prend de lui ou pas? Et il dit, Al-Khatib al-Baghdadi, rahimahullah, il dit, si ces deux causes sont présentes dans son pays, et elles ne sont pas présentes en dehors de son pays, alors il n'y a pas besoin de voyager, et le mieux c'est de se contenter de ce qu'il y a dans son pays. ومن أمثلة هذين السببين النموذجان التاليان. Et là il va citer deux exemples de tout ce qu'on vient de citer, et c'est là que je vous demande d'être attentif et de bien ouvrir vos oreilles et de bien tirer le son de ce qu'on va raconter ici. الأول عن المؤمل بن إسماعيل قال حدثني ثقة بفضائل سور القرآن الذي يروى عن أبي بن كعب. المؤمل بن إسماعيل dit m'a raconté un thiqa, donc un thiqa c'est-à-dire une personne dont le hadith est sahih. Thiqa c'est-à-dire il est adl, c'est un homme pieux, et il a ad-dabt, il sait répéter les hadiths tels qu'il les a entendus, c'est ça un thiqa. Le jugement de son hadith c'est qu'il est sahih. Il dit un thiqa m'a raconté, juste comme ça pour la faïda, il faut savoir, la science du hadith c'est tellement minutieux, que quand un muhadith dit un thiqa m'a raconté, on ne prend pas automatiquement son hadith. parce que peut-être qu'il est thiqa pour lui, mais pour les autres il ne l'est pas, parce que les autres ils connaissaient de lui ce qui le fait sortir du jugement de thiqa. Pour vous dire comment c'est, quand un hadith il dit un thiqa m'a raconté, c'est pas forcément acceptable. En tout cas ici il dit un thiqa, donc un homme de confiance m'a raconté le hadith qui parle du mérite de certaines sourates du Coran, qui est raconté selon Ubay ibn Ka'b radiallahu anhu. فقلت للشيخ من حدثك قال حدثني رجل بالمدائن وهو حي. Donc il dit au cheikh, au thiqa qui lui a raconté le hadith, il lui dit qui t'a raconté ce hadith, il lui a dit c'est un homme qui est à Al-Mada'in, c'est une ville et il est vivant. فصرت إليه فقلت من حدثك فقال شيخ بواسط وهو حي. فصرت إليه. Il est parti jusqu'à Al-Mada'in et il a rencontré l'homme en question, il lui a dit qui t'a raconté ce hadith. Il a dit un homme qui est à Wasit. Wasit, c'est une ville en Irak, à ma connaissance. Et il lui a dit, il est vivant. Il dit donc, je suis parti à Wasit. C'est de là qu'on dit Al-Aqid al-Wasitiyah, parce qu'Ibn Taymiyyah, il a écrit pour des gens qui étaient de cette ville, la ville de Wasit. فَقَالَ حَدَّثَنِي شَيْخٌ بِالْبَصْرَةِ فَصِرْتُ إِلَيْهِ. Il va à Wasit et l'homme, il lui dit, m'a raconté ce hadith un homme qui est à Basra, donc une autre ville encore en Irak, et il voyage jusqu'à Basra. فقال حدثني شيخ بعبدان فصرت إليه. Il rencontre l'homme de Basra qui lui dit celui qui m'a raconté c'est un homme à Abadan, une autre ville, et il voyage jusqu'à Abadan. فأخذ بيدي فأدخلني بيتا فإذا قوم من المتصوفة ومعهم شيخ فقال هذا الشيخ حدثني. Et il va jusqu'à Abadan. Il rencontre l'homme en question et l'homme en question il le prend par la main et il le ramène dans une maison où il y avait des soufis. Et il lui dit, c'est ce cheikh. Il y avait un cheikh qui était assis et il lui dit, c'est lui qui m'a raconté ce hadith. Faqala, faqultu ya cheikh, man haddathak. Donc il va voir le cheikh des soufis et lui dit, qui t'a raconté ce hadith? Faqala, lam yuhaddithni ahad, walakinna ra'ayna an-nasa qad raghibu 'an al-Qur'an. فوضعنا لهم هذا الحديث ليصرفوا وجوههم الى القران. Il va voir le cheikh et lui dit qui t'a raconté ce hadith? Il lui dit personne ne me l'a raconté, mais j'ai vu les gens se dévier du Coran, alors j'ai inventé ce hadith pour que les gens prêtent attention au Coran. C'est-à-dire il invente un hadith qui dit celui qui lit tel passage ou tel passage il aura tel ou tel mérite, comme ça les gens ils viennent et ils lisent le Coran. Donc regardez comment Al-Mu'ammil, il a voyagé, il a remonté toute la chaîne pour à la fin s'apercevoir que le hadith il a été inventé. الثاني أخرج الحافظ ابن حبان بإسناده إلى أبي نصر بن حمد الوراق البجلي قال. Donc Ibn Hibban al-Hafidh, donc un imam du hadith, il raconte avec une chaîne de transmission selon un des salaf, Abu Nasr ibn Hamad al-Warraq al-Bajali, il raconte: كنا بباب شعبة بن الحجاج ومعي جماعة نتذاكر السنة. Il dit nous étions devant la porte de Shu'bah ibn al-Hajjaj et j'avais avec moi un groupe de personnes et nous révisions la sunna, c'est-à-dire les hadiths. فقلت حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فأحسن الوضوء دخل من أي أبواب الجنة شاء. Donc cette histoire-là on l'a déjà racontée à Chalon. Enfin, j'avais sauté des pages pour la raconter, pour marquer les frères, mais on va la répéter ici. Il dit donc, j'ai raconté, donc c'est Abu Nasr, il dit, j'ai dit, haddathana, c'est-à-dire m'a raconté, Israël. Donc retenez bien, celui qui lui a raconté, il s'appelle Israël. An Abi Ishaq, qui rapporte de Abi Ishaq. An Abdullah ibn Atta, qui rapporte de Abdullah ibn Atta, qui rapporte de Uqba ibn Amir, le compagnon du prophète, radiallahu anhu, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui fait les ablutions et qui les fait parfaitement rentrera au paradis par n'importe quelle porte ou par la porte qu'il veut. Donc il dit Israël m'a raconté que Abu Ishaq lui a dit que Abdullah ibn Atta dit que Uqba ibn Amir a dit du prophète. Vous retenez bien. Il dit فخرج شعبة وأنا أحدث بهذا الحديث فصفى عني. Il dit Shu'ba est sorti de chez lui parce qu'il a entendu dire ce hadith et il lui a mis une gifle. ثم قال يا مجنون, il lui a dit espèce de fou. سمعت أبا إسحاق يحدث عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر. Il dit moi j'ai entendu Abu Ishaq. Donc déjà il a une chaîne de transmission plus courte que lui. T'enlèves le premier Israël. Shu'ba, lui, il a entendu de Abu Ishaq. Il dit, j'ai entendu Abu Ishaq raconter de Abdullah ibn Atta, donc comme l'autre, qui raconte de Uqba ibn Amir, le compagnon. Donc c'est la même chaîne que l'autre. فقلت يا أبا إسحاق سمعت عبد الله بن عطاء يحدث عن عقبة بن عامر. شعبة dit, donc j'ai demandé à Abu Ishaq, à celui-là, est-ce que tu as entendu Abdullah ibn Atta qui rapporte de Uqba ibn Amir? En fait, pourquoi il lui dit ça? Parce que c'est étrange le fait que Abdullah ibn Atta il rapporte de Uqba ibn Amir avec la distance qu'il y a entre les deux. Que ce soit distance chronologique ou là, je ne sais pas, c'est une distance chronologique ou dans l'espace. En tout cas, il dit Sami'tu Abdullah ibn Atta. Et Abu Ishaq, donc Hadha, il lui dit j'ai entendu Abdullah ibn Atta. Mais il finit pas. Il ne dit pas qu'il a entendu un tel. Il dit j'ai entendu Abdullah ibn Atta. Donc là, il ment pas. Mais il continue pas jusqu'au bout. Qultu Abdullah ibn Atta sami'a Uqbat ibn Amir. Il lui dit oui, mais est-ce que Abdullah ibn Atta a entendu Uqba ibn Amir? Faqal askut. L'autre il lui répond tais-toi. Faqultu la askut. Il lui dit je ne me tais pas. Faltafata ilayya Mis'ar ibn Kidam. Faqala ya Shu'bah Abdullah ibn Atta hayyun bi Makkah. Donc un des gens qui était présent, Mis'ar ibn Kidam, il regarde Shu'bah. Donc c'est une autre histoire là, c'est Shu'bah qui raconte. Qui raconte et lui dit quand Abu Ishaq il n'a pas voulu lui répondre est-ce que vraiment tu as entendu Abdullah ibn Atta qui raconte de Abdullah ibn Amir, une troisième personne qui est allée lui dit écoute, Abdullah ibn Atta, donc celui-là, de toute façon il est vivant à la Mecque. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il veut lui dire? Il veut lui dire on va le voir et on va savoir si vraiment il a entendu Uqba ibn Amir. Fakharajtu ila Makkata. Il dit je suis parti à la Mecque, sachant que Shu'ba il est d'Irak, donc déjà le voyage déjà il est infinissable. Il dit je suis parti à la Mecque. Falaqitu Abdullah ibn Atta. Faqultu hadith al-wudu. Faqala Uqba ibn Amir. Donc il est parti à Mecca, il a cherché après Abdullah ibn Atta, donc entre guillemets celui-là, le troisième là, et il lui a dit que dis-tu du hadith de l'wudu, c'est-à-dire de qui le rapportes-tu? Et il lui dit Uqba ibn Amir, le compagnon. Et il lui répond yarhamukallah sami'ta minhu? Qala la. Il lui dit oui, mais est-ce que tu l'as entendu de lui? Il lui répond non. Donc déjà il a trouvé la faille. En fait lui il n'avait pas entendu de lui. Il dit là haddathani Sa'd ibn Ibrahim. Il dit celui qui me l'a raconté c'est Sa'd ibn Ibrahim. Fa'ataytu Malik ibn Anas wa huwa hajjun fasa'altu an Sa'd ibn Ibrahim faqala li ma hajj al-'am falamma qadaytu nusuki madaytu ila al-madinati falaqitu Sa'd ibn Ibrahim faqultu hadith al-wudu. فقال من عندكم خرج حدثني زياد بن مخراق. Il dit donc je suis parti, quand l'autre il lui a dit je l'ai pas entendu de Uqba mais de Sa'd ibn Ibrahim. Il dit je suis parti voir Malik ibn Anas, donc l'imam Malik qui était à Mecca à ce moment-là, alors qu'à la base il est de Médine parce qu'il faisait son pèlerinage. Et je lui ai demandé à propos de Sa'd ibn Ibrahim et il m'a dit il n'a pas fait le pèlerinage cette année, c'est-à-dire il est où? Il est à Mecca, à Médine pardon. Il est resté à Médine. Il dit donc quand j'ai fini mon pèlerinage, donc Shu'ba il en a profité, il a fait son pèlerinage, il dit quand j'ai fini mon pèlerinage, je suis parti à Médine et j'ai rencontré Sa'd ibn Ibrahim. Donc combien il a fait là? Il refait 450 km pour partir à Médine. Et je lui ai dit le hadith un tel et il m'a dit c'est de vous qu'il vient, c'est de chez vous, c'est-à-dire en Irak. Celui qui m'a raconté c'est Ziyad ibn Mikhraq. Donc regardez déjà, il y a deux bonhommes en plus dans la chaîne, que la chaîne originale, là, t'as Abdullah ibn Atta, selon Sa'd ibn Ibrahim, selon Ziyad ibn Mikhraq, seulement selon Uqba ibn Amir. Et c'est pas fini. Il dit فَنْحَضَرْتُ إِلَى الْبَصْرَةِ فَلَقِيْتُ Ziyad ibn Mikhraq وَأَنَا شَاحِبُ اللَّوْنِ وَسِخُ الثِّيَابِ كَثِيرُ الشَّعْرِ. Il dit je suis reparti jusqu'à Al-Basra, de là où il vient au départ. Et j'ai rencontré Ziyad ibn Mikhraq. Et j'avais, il était coloré, c'est-à-dire le sable, etc. Et j'étais sale sur mes vêtements. Et il avait beaucoup de cheveux. C'est-à-dire, on voit qu'il a voyagé, ça y est, il est sale, etc. فَقَالَ مِنْ أَيْنَ فَحَدَّثْتُهُ الْحَدِيثَ فَقَالَ لَيْسَ هُوَ مِنْ حَاجَتِكَ. Et Ziyad ibn Mikhraq, il dit à Shu'ba, il lui dit d'où viens-tu? Shu'ba, il lui raconte et il lui parle du hadith, il lui dit ça, t'en as pas besoin. فَقُلْتُ فَمَا بُدْ. Il dit, obligé, entre guillemets, tu me le racontes. قَالَ لَا حَتَّى تَذْهَبَ تَدْخُلَ الْحَمَّامَ وَتَغْسِلَ ثِيَابَكَ. il lui dit, je te le raconterai pas jusqu'à ce que tu rentres au hammam, donc entre guillemets les salles de bain de l'époque, tu laves tes vêtements, ensuite tu viens et je te le raconte. Tout ça par respect du hadith. C'est-à-dire, il ne raconte pas un hadith à quelqu'un qui est dans cet état-là. قال فدخلت الحمام وغسلت ثيابي ثم أتيته. Il dit donc, je suis parti au hammam, j'ai lavé mes vêtements et je suis revenu le voir. فقال حدثني شهر بن حوشب عن أبي ريحانة. Et donc, Ziyad il lui dit, celui qui m'a raconté c'est Shahr ibn Hawshab selon Abu Rayhana. Donc ça fait combien là dans la chaîne rajoutée? Il y avait Sa'd ibn Ibrahim, tu rajoutes Ziyad ibn Mikhraq, tu rajoutes Shahr ibn Hawshab et tu rajoutes, qu'est-ce qu'il a dit, Abu Rayhana. 4, j'en ai pas oublié un. J'en ai pas oublié. Donc en fait il y avait 4 bonhommes entre eux, Abdullah ibn Atta et Uqba ibn Amir. Donc Shu'ba il avait bien senti la faille. فقلت هذا حديث صعد ثم نزل دمر عليه ليس له أصل. Il dit Shu'ba à ce moment-là, il dit, j'ai dit, ça c'est un hadith qui est monté et qui est redescendu. Qu'est-ce qu'il veut dire par monté? Conformément à ce qu'on a dit au début, monté ça veut dire il était court, sa chaîne était courte, mais après il est redescendu, c'est-à-dire en vérité sa chaîne elle était longue. Il dit effacez-le, il n'a pas de base, c'est-à-dire il s'est rendu compte. Donc personnellement je ne sais pas pourquoi, quelle est la cause que le hadith, il dit, laïsa lahu asl, il n'a pas de base. Et peut-être que c'est par rapport à Shahr ibn Hawshab. C'est le seul rapporteur dont j'ai connaissance ici. Je sais que c'est un rapporteur daif. Est-ce que c'est pour ça? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il a dit par rapport à la chaîne complète que c'était un hadith daif. Effacez-le. Donc tout ça pourquoi? C'est même pas pour apprendre un hadith, c'est pour vérifier la chaîne de transmission d'un hadith. Donc qu'en est-il de nous aujourd'hui? Quelle leçon on doit tirer de tout ça? Comment il a voyagé? Là, il a dû facilement faire 3000 km, si on compte en tout. Pour vérifier, c'est pas pour apprendre. Il n'a pas dit, je vais aller apprendre le tafsir du Coran ou les hadiths. Il dit, c'est pour vérifier une chaîne de transmission, c'est tout. Alors qu'en est-il, sachant qu'il connaissait, les imams de l'époque, 50 000 ou 100 000 chaînes de transmission? Ça veut dire que leur vie, ils l'ont passé à faire des choses comme ça. Donc nous, on doit en tirer leçon et mettre en application ce genre de leçon. Quant au hadith, pour revenir à la parenthèse, c'est que le hadith, il y a un hadith qui dit, selon Omar ibn al-Khattab, c'est rapporté par At-Tirmidhi, il dit, من توضع فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها شاء. Il dit ça, ce hadith, il y a un hadith qui ressemble à celui-là, qui est rapporté par Omar ibn al-Khattab, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui fait parfaitement ses ablutions, puis qui dit, je témoigne qu'il n'y ait de divinité digne d'être adoré qu'Allah, seul, sans associé, et je témoigne que Mohammed est son serviteur et son messager, oh Allah, mets-moi parmi ceux qui se repentent beaucoup et qui se purifient, les 8 portes du paradis lui seront ouvertes et il entrera par laquelle il veut. Ça, c'est un hadith authentique. Notamment, il cite ici que Cheikh al-Albani l'a authentifié. Donc, pour vous dire que, parce que quelqu'un il peut avoir lu ce hadith, puis il dit donc il est faux. Ce hadith dont il parle, Shu'ba, il est faux, mais il y a un hadith qui lui ressemble, qui est authentique, le hadith de Omar. Le cheikh ici, il dit dans la marge, il dit, قال ابن عبد البر وقد روي هذا المعنى من وجوه عن شعبة. Il dit Ibn Abd al-Barr. Ibn Abd al-Barr, c'est un savant du 5e siècle de l'islam qui était en Andalousie, c'est-à-dire ce qui est maintenant l'Espagne, rahimahullah. Et il avait la même position que le Khatib al-Baghdadi. C'était les deux imams de l'époque. Khatib al-Baghdadi, c'est à l'est, et Ibn Abd al-Barr, c'est à l'ouest. Il dit, cette histoire a été rapportée de plusieurs façons selon Shu'ba, c'est-à-dire elle a plusieurs chaînes. ثم ذكرها ومنها إلى آخره. وفي هذين النموذجين بيان لتلك الجهود المضية التي بذلها السلف رحمهم الله في سبيل تنقية السنة المطهرة مما أدخله الزنادقة والكذابون عليها وذنب الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il dit, Cheikh Hafizahullah, il dit, ces deux exemples montrent les efforts qu'ont produits les salafs pour protéger la sunna et la purifier de ce que les kuffars ou les menteurs ou les hypocrites ont pu mettre dedans et pour écarter les mensonges du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Faqala Abu Umar ibn Abd al-Barr, hakadha yakunu al-bahth wa al-taftish wa hadha ma'roufun an shu'bata wa lihadha wa shibuhu wa shibihi qala Abu Abd al-Rahman al-Nasai, umana'ullahi azza wa jal على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة: مالك بن أنس وشعبة بن الحجاج ويحيى بن سعيد القطان. Ibn Abd al-Barr dit après cette histoire, il dit: c'est ainsi que doit être la recherche et la vérification. Et il dit: ça c'est connu de Shu'ba, c'est-à-dire qu'il était comme ça. Et il dit: et c'est pour cela qu'Abu Abd al-Rahman al-Nasa'i, donc l'auteur de Sunan al-Nasa'i, a dit: les hommes de confiance d'Allah, quant au hadith du prophète, c'est-à-dire ceux qui sont le dépôt de confiance du prophète, du hadith du prophète, pardon, sallallahu alayhi wa sallam, sont au nombre de trois. Il a dit Malik ibn Anas, l'imam Malik, Shu'ba ibn al-Hajjaj et Yahya ibn Sa'id al-Qattan. وإنما قام بهذان الإمامان المؤمل وشعبة ما هو إلا نموذج واحد من تلك النماذج الكثيرة التي كان يقوم بها السلف رضوان الله عليهم في سبيل خدمة هذا الدين والذود عن حياضه. Il dit: ces deux exemples de ces deux imams, les deux histoires que vient de raconter Al-Mu'ammil ibn Ismail et Shu'ba ibn al-Hajjaj, il dit: ce n'est qu'un exemple parmi les nombreux exemples de la façon dont les salafs ont travaillé, ont fait des efforts dans le chemin, c'est-à-dire au service de cette religion. وهذان النموذجان مثال لذلك الصبر وذلك المثابرة في طلب العلم والدقة في تتبع مسائله وتحمل الجهد والمشقة في تصحيحه ثم نشره وتعليمه للناس. فأين طلبة العلم اليوم من هذا العمل وماذا قدموا لخدمة سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم ونشرها وتعليمها للناس. Ça c'est un exemple de patience dans la recherche de la science et de précision en ce qui concerne les questions de la science et dans le fait de supporter les épreuves et la difficulté dans at-tasrih, c'est-à-dire dans l'authentification de la science et dans le fait de répandre et d'enseigner la science. Il dit donc: aujourd'hui, où sont les étudiants en science de cet exemple? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait nous aujourd'hui? Et qu'est-ce qu'ils ont avancé comme service pour la sunna du prophète et pour la répandre parmi les gens? Là, on fait une pause. Donc ça, c'est ma façon de faire. C'est-à-dire, on fait 40 minutes et quelques, et puis après, on fait une pause. Donc celui qui veut respirer, eh bien, qui respire. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.